بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 20 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 8 février 2000. 26. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lecture de ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Risalatuhu ila Ahadi Ikhwani, donc une lettre qu'il a adressée à un de ses frères. Et on s'est rendu au passage dans lequel il a parlé, toujours au sujet de ce verset de Surat Sajda, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux des guides et des imams qui guident avec les ordres d'Allah, quand ils ont fait preuve de patience et ils ont eu la certitude. Donc il a dit que ce verset nous indique clairement que la patience et la certitude, ce sont des conditions pour atteindre ce très haut rang dans la religion. Mais ce ne sont pas les deux conditions qui sont mentionnées dans ce verset seulement. Il y a d'autres conditions qui sont mentionnées que l'imam a déduit ici, et on a vu le premier, ou le troisième. Le troisième, c'est d'appeler à la religion d'Allah et d'être la cause de la guider des gens. Et le quatrième point, ou la quatrième condition, c'est de les guider selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas les guider avec les innovations, avec les égarements, avec les coutumes, avec ce que les gens ont inventé, mais de les guider selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc ça, c'est les quatre fondements que l'imam Al-Qayyim a nommé, les quatre fondements pour atteindre ce degré très élevé dans la religion. Le degré de l'imam, d'être un guide dans la religion et d'être suivi dans la religion. La certitude, la patience, d'appeler les gens et de les appeler à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, de ne pas les appeler à nos propres avis, nos propres opinions, de ne pas les appeler à ce que implique une politique ou quelque chose de ce genre. Lakin, on les appelle à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et tout ça, c'est mentionné dans le verset. فَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Allah n'a pas dit qu'il guide avec la politique, ou là avec la raison, ou là avec la logique, ou là, il a dit, il guide avec nos ordres. Il guide avec nos ordres, c'est-à-dire avec ce que Allah a révélé. Il dit donc, ce sont quatre fondements comportés dans ce verset. Le premier, c'est la patience. Et nous avons vu que la patience, c'est de s'empêcher de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de porter son nafs à accomplir les ordres et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas montrer de forme de rébellion ni de rejet contre les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience, elle est dans les obéissances et dans les adorations afin qu'elles soient accomplies. Et elle est face au péché afin de s'en éloigner. Et la patience également, elle a lieu face aux décrets d'Allah et de les accepter. Et l'acceptation, c'est le minimum obligatoire. Et on peut arriver à un niveau plus élevé qui est le niveau de rida. Rida, c'est la satisfaction. Et la satisfaction, ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître. être satisfait du décret d'Allah. Yani l'accepter, même si malgré son amertume, et tu ressens cette amertume. Et tu préfères si tu n'as pas été touché par ce malheur ou cette catastrophe. Lakin, Allah l'a décrété, donc tu acceptes. Donc ça, c'est un minimum. Et c'est l'obligation. Il y a un degré recommandé qui est le degré de la satisfaction. Ils disent que la satisfaction, c'est que cette épreuve ou ce malheur par lequel tu es touché ne te change pas du tout, ne provoque aucun changement en toi. Ça veut dire, toi, après l'épreuve et après l'épreuve, tu es le même. Ça, c'est la satisfaction. Il y a un degré qui est encore supérieur à celui-là, c'est le degré de shukr, la reconnaissance et le remerciement. De remercier Allah de ton cœur et avec tes membres et avec ta langue sur une épreuve. Tellement Allah te permet de voir des bienfaits, des faveurs à travers cette épreuve. Les gens la voient comme un mal de l'extérieur. Lakin toi, avec la science qu'Allah t'a donnée et avec la compréhension qu'Allah te permet, tu vois énormément de bienfaits dans cette épreuve. Qu'elle t'a touché dans dunya, qu'elle t'a pas touché dans la religion. Qu'elle n'a pas été plus forte que comme elle a été. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis, durant l'épreuve, il t'a permis la patience et l'acceptation et la satisfaction et encore le remerciement et la reconnaissance. Donc ça c'est sabr. Ensuite il a cité la certitude et ça aussi on l'a lu. La certitude. Donc la certitude c'est d'avoir c'est la foi ferme au sujet des six piliers de la foi. Il a cité que les cinq, il n'a pas cité le décret car il l'a mentionné dans la patience. Sinon les piliers de la foi sont au nombre de six. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la certitude, c'est un niveau élevé dans la science. C'est un niveau élevé dans la science. Et donc d'arriver à un degré élevé dans ta foi vis-à-vis de ces six piliers de la foi. Et d'arriver à une science qui n'admet pas les doutes. Et la certitude, bien évidemment, c'est des degrés, les uns au-dessus des autres. Il a dit, ces cinq, فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْخَمْسَ. Donc c'est là où on a arrêté, on s'est arrêté la dernière fois sur ce point. Il a dit, فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْخَمْسَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَالْيَقِينُ أَنْ يَقُومَ الْإِيمَانُ بِهَا حَتَّى تَصِيرَ كَأَنَّهَا مُعَايَنَةٌ لِلْقَلْبِ مُشَاهَدَةٌ لَهُ. Allahu Akbar. Il dit, ces cinq fondements, celui qui ne croit pas en ces cinq fondements, ce n'est pas un croyant. Yani, celui qui n'a pas la foi au sujet des six piliers de la foi, celui-là, ce n'est pas un mu'min. Le mu'min, c'est celui qui croit en ces six piliers de la foi. C'est pour ça que ça s'appelle des piliers. S'il manque un, yani, tout s'écroule. Et ça, c'est valable par rapport aux six piliers de la foi. Lakin, il n'y a pas unanimité par rapport aux six piliers de l'islam. Cette appellation de pilier, ce n'est pas une appellation qui est mentionnée dans les textes. Ce n'est pas mentionné dans le Coran ni dans la Sunna, rukn, arkal iman, arkal islam. Ça, c'est un istilah. C'est une appellation qui a été utilisée par les hommes de science pour montrer l'importance de ces points. Et ça, c'est juste. Donc, celui qui ne croit pas aux six piliers de la foi, ce n'est pas un croyant. Et c'est quoi d'avoir la certitude au sujet de ces six piliers de la foi? Donc, on comprend de cela qu'il y a un minimum pour valider ta foi, pour que tu sois un croyant. Un minimum de science au sujet de ces six piliers de la foi, sans lequel tu n'es même pas un croyant. Avec ce minimum, ça permet de valider ta foi. Lakin, arrive au degré de la certitude, c'est encore plus élevé. Ce n'est pas ce degré-là qui permet d'avoir cette certitude de laquelle il est question dans ce verset. Naam, tu as un minimum de la certitude qui valide ta foi. Là, ici, il est question d'un degré plus élevé. C'est ce qu'il va décrire. Il dit أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له. C'est d'avoir la foi en ces six piliers jusqu'à ce qu'elle devienne comme une chose que tu regardes avec les yeux et t'observes avec le cœur. Afon, il n'a pas dit les yeux, il a dit le cœur. C'est d'avoir la foi en ces six points jusqu'à ce que ça devienne comme quelque chose que tu vois avec le cœur. Donc c'est une vision scientifique. Jusqu'à ce que ça devienne comme quelque chose que tu vois avec le cœur. Et c'est ce qu'on appelle le basira. Le basira, ils disent, c'est comme le basar. Mais le basar, c'est pour les yeux. Et le basira, c'est la vue du cœur. Donc les yeux ont une vue et le cœur a une vue, qu'on appelle le basira, pour la distinguer de le basar. Et ça se résume en une vision scientifique. Donc, il faut que tu aies un niveau de science et de foi en ces six piliers de la foi jusqu'à ce que ça devienne comme quelque chose que tu vois avec le cœur de la même manière que tu vois le soleil et la lune avec les yeux. Est-ce que quelqu'un peut te faire douter du soleil quand il est en plein milieu du ciel, un ciel dégagé? Personne ne peut te faire douter. Donc il faut que tu arrives à une certitude comme celle-là. Et c'est ça qui permet d'accéder à ce degré de l'imama dans la religion. Et c'est pour ça, il a été rapporté de certains salafs, cette parole, ils ont dit, al-yaqinu, al-imanu kullu. La certitude, c'est toute la foi. La foi en entier, c'est la certitude. Ça veut dire, avec la grande certitude, on arrive au degré de la foi, le degré de la foi complet. On arrive au degré de la foi complet avec une forte certitude. L'yaqin. Et c'est pour ça qu'il est rapporté dans le hadith. Donc, Naam, il ne l'a pas cité. Il est rapporté dans le hadith de Nabi alayhi salam que la certitude, c'est la meilleure chose qui est donnée à un musulman. La meilleure chose qu'Allah donne à un musulman, c'est la certitude. Et bien évidemment, ce qui est voulu par la certitude, ce n'est pas la quantité de la certitude qui valide la foi. C'est la certitude élevée qui arrive à ce que l'imam Ibn al-Qayyim décrit ici. Donc ça, c'est la certitude. Le deuxième point. Le troisième fondement, la guidée des gens et des créatures, et de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Allah azza wa jalla dit dans le verset وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى, dans le sens approximatif de ce verset, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, c'est-à-dire, qui donc pourrait tenir meilleur discours que celui qui appelle les hommes au culte exclusif d'Allah, accomplit de bonnes œuvres et proclame sa soumission au Seigneur. مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc, le sens de ce verset, ça c'est une interrogation. Man ahsan, qui est meilleur? Qui est meilleur dans ses propos que celui qui appelle à Allah? Là, il faut savoir que le sens de cette interrogation, c'est la négation. C'est pour ça, si vous lisez dans le tafsir, ils vont dire, wa man ahsanu qawlan, ils vont dire, la ahada ahsanu qawlan. Personne, le sens du verset, normalement, si on traduit le sens, on va dire, personne n'est meilleur en propos que celui qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait les bonnes œuvres et qui montre et proclame ouvertement sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne meilleur que cet homme. Personne ne meilleur que lui. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il est rapporté de Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, Hadha Habibullah. Cet homme décrit ainsi dans le verset, regardez, il fait le bien en lui-même, il appelle autrui, ou bien il proclame ouvertement sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Hadha Habibullah. C'est le bien-aimé d'Allah. C'est l'allié d'Allah. Il s'est soumis à Allah. Il a œuvré avec son obéissance. Il a appelé ses créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. Cette catégorie de gens, c'est la meilleure des catégories des gens et qui auront les degrés les plus élevés le jour de la résurrection. Car ce sont les vrais héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Vous savez que la mission principale des prophètes, c'est d'appeler les gens à la religion d'Allah. Et cette catégorie de gens font la même chose que les prophètes, sauf que ce ne sont pas des prophètes, et qu'ils ne reçoivent pas la révélation. Lakin, ce sont les vrais héritiers des prophètes et des messagers. Car les prophètes et messagers n'ont pas laissé en héritage ni de l'or, ni de l'argent. Ni des biens mondains. Tout ce que le prophète laisse n'est pas réparti, ne sera jamais réparti entre ses héritiers. Car le prophète a une particularité, c'est qu'il ne laisse pas d'héritage. Ce qu'il va laisser, si jamais il laisse quelques biens de ce bas monde, ils seront remis à la trésorerie des muslimines, Bayt Mal Muslimin. Et on ne donnera rien à ses héritiers. Alors que toi, si tu laisses des biens, ça sera partagé comme Allah l'a ordonné entre tes héritiers. Les prophètes, ils n'ont pas ça. Comme ça, personne ne peut les accuser qu'ils se sont servis de ce statut de da'wa et de ce statut du prophète pour amasser les fortunes et pour enrichir leur descendance. Ils ne laissent rien. Et ils ne prennent rien de personne. Ils se contentent d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, comme Allah a décrit le prophète alayhi sallam, il a dit wala yas'alkum amwalakum. Il ne vous demande pas vos biens. Là, les gens en général, si tu leur demandes leurs biens, à cause de leur avarice et de leur attachement à leurs biens, ils vont s'éloigner de la vérité à laquelle tu appelles. C'est pour ça que c'est très important que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas aux gens leurs biens. Au contraire, si Allah lui donne à lui des biens, en plus de ses besoins, lui, il les aide, il leur donne. Et comme ça, ils vont continuer à accepter la vérité à laquelle ils appellent. La vérité à laquelle ils appellent. Comme le Nabi nous a enseigné dans le hadith que vous trouvez dans l'Arba'in Nawawiyya. « Izhad fi dunya yuhibbuk Allah. » Fais preuve d'ascétisme et de délaissement de ce bas monde, les gens vont t'aimer. Pourquoi les gens ils vont te détester ? Parce que tu rentres en concurrence avec eux dans leurs affaires mondaines. Parce que tu demandes leur bien. Et fais preuve d'ascétisme. Izhad fi ma inda an-nas yuhibbuk an-nas. Wa izhad fi ad-dunya yuhibbuk Allah. Fais preuve d'ascétisme par rapport à ce bas monde, Allah t'aimera. Et délaisse les biens des gens, les gens vont t'aimer. Si tu ne leur demandes pas leurs biens, ils vont t'aimer. Et si tu leur donnes de tes biens, ils vont t'aimer davantage. Et c'est comme ça qu'était notre prophète, alayhi sallam. C'est lui notre modèle et notre exemple. Le Nabi, alayhi sallam, quand il recevait des biens, il ne pouvait pas dormir la nuit jusqu'à les répartir entre les musulmans. Il ne pouvait pas dormir en gardant quelque chose chez lui. Et c'est pour ça que la fois où le Nabi a oublié deux rak'at dans une salat, est-ce que Dhuhr ou l'Asr, il a fait que deux, il a fait Teslim, et il voulait partir rapidement et rentrer chez lui, parce qu'il s'est rappelé qu'il y avait des biens qu'il n'a pas répartis encore. Et c'est là où Dhul Yadayn a rappelé au prophète qu'il n'a fait que deux rak'at. Il a complété sa salat. Et il leur a dit ça par la suite, qu'il voulait partager des biens qu'il a reçus. Il ne garde rien, alayhi salatu wassalam. وَهُمْ ثَنِيَّةُ اللَّهِ Il poursuit en disant par rapport à ceux qui appellent les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et appeler les gens à la religion d'Allah, mes frères, ça peut se faire avec la science, pour celui à qui Allah a donné la science. Ça peut se faire par la distribution d'ouvrages bénéfiques et profitables, d'hommes de science, de confiance. Ça peut se faire de différentes manières. C'est pas seulement en donnant des cours ou là. Ça peut se faire de différentes manières. Chacun peut participer dans ce bien et cette grande faveur d'être la cause de la guider d'autrui. Ensuite, il a dit par rapport à ces gens-là qu'ils sont l'exception. Ce sont les seuls qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception dans Surat al-Asr. La seule exception des perdants. Tous les hommes sont en perdition et sont voués à la perdition, à l'exception d'une seule catégorie. Ce sont ceux-là. Allah dit, wal asr. Allah il jure par le temps. Et Allah il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Par contre, la créature ne peut jurer que par son créateur. Et Allah, quand il jure par une créature, c'est pour nous montrer son statut et son mérite auprès de lui. Et le temps est une créature d'Allah extrêmement noble, car c'est l'endroit où c'est l'espace dans lequel se déroulent les œuvres des serviteurs. Allah il dit « wal asr ». Et certains savants disent « l'asr ici, c'est salat l'asr ». Ça aussi, c'est un avis. Là qu'il l'avis de la plupart des savants, ils disent « l'asr ici, c'est le temps ».« Wal asr, inna l'insana lafi khusr ». L'homme est certes en perdition, voué à la perdition. Et ici, il a dit « innal insana », c'est-à-dire tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Donc, quand on dit « al-insan », a dit « al-jinsiya », elle a le même sens que « kul », comme si tu as dit « inna kull al-insan ». C'est le même sens qu'on étudie ici par rapport à « usul fiqh », c'est le même sens. Donc, « innal insana la fi khusr », illa, l'exception, c'est une seule catégorie qui a regroupé quatre caractéristiques. Il a dit « illa alladhina amanu » à l'exception de ceux qui ont cru. Et donc, il n'y a pas de foi sans science. Donc ça fait rappeler le premier point qui est la science. Et « illa alladhina amanu » la science et la certitude. « illa alladhina amanu wa amilu s-salihati » Et c'est pas seulement ils ont chercher la science, ils ont demandé la science, mais ils ont mis en pratique cette science. Wa amilus salihat, ils ont fait le bien, ils ont fait les bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqqi, et qui se sont enjoints mutuellement à la vérité. Donc ça c'est la da'wa. Ils ont appelé autrui à la vérité après l'avoir su avec science et certitude et l'avoir mis en pratique, ils appellent autrui à cette vérité. Et s'enjoint dans la patience, car appeler les gens à la vérité demande beaucoup de patience. Demande beaucoup de patience. Car les gens, comme dit Cheikh Ibn Badis, rahimahullah, les gens en général, ils n'aiment pas ceux qui les appellent à la science, qui leur disent « vous êtes ignorants et on va vous apprendre votre religion ». Les gens préfèrent le discours des politiques et des politiciens qui leur disent « vous êtes opprimés et nous, on va vous ramener vos droits. » Et ça, c'est la voix des politiciens. Amma, la voix des prophètes, c'est la première. Et c'est pour ça que les gens les prennent comme des ennemis. Yani dans le sens de la parole de Ibn Badis, qu'Allah lui fasse miséricorde. فَأَقْسَمَ سُبْحَانَهُ عَلَى خُسْرَانِ نَوْعِ الْإِنسَانِ Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a juré que l'être humain est certes en perdition. Illa man kammala nafsahu bil iman wal amal as-salih, à l'exception de celui qui a complété sa personne avec la foi et les œuvres pieuses, wa kammala ghayrahu, et qui a complété autrui avec les recommandations et les orientations. Et ça c'est da'wa. Wa li hadha qala ash-Shafi'i rahimahullah, law fakkara an-nasu kulluhum fi surati al-'Asr lakafatuhum. Cette parole a été rapportée de l'imam Shafi'i, yani avec différentes de différentes manières, là qu'il le sens, il est le même. Dans Thalathat al-Usul, Il dit, لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que cette sourate sur ses créatures, elle aurait suffi. Elle aurait suffi comme preuve d'une manière globale. Lakin, on a besoin du reste du Coran. On ne peut pas se passer d'un seul verset, d'un seul mot, même d'une seule lettre du Coran. On a besoin du Coran dans son intégralité. Lakin, le sens de cet imam, le sens de sa parole, c'est que cette sourate permet d'établir la preuve sur les créatures d'une manière globale. Et tu comprends d'où tu viens, vers où tu vas et pourquoi tu es créé. Yani, ce qu'ils appellent les trois questions existentielles. Yani, tu comprends tout à travers cette sourate déjà. Tout le monde est voué à la perdition, sauf ceux qui réunissent ces quatre caractéristiques. C'est pour ça qu'il a dit, si les gens avaient médité sur cette sourate, elle aura été suffisante pour eux. Ensuite, il a dit وَلَا يَكُونُ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Il ne fera partie des suiveurs du prophète عليه الصلاة والسلام en toute vérité que celui qui appelle à Allah avec science et clairvoyance. Ce n'est pas Tablir qui appelle avec l'ignorance. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention et de vouloir faire le bien et de ramener les gens vers la vérité. Non. Il faut commencer par apprendre la religion et ensuite la propager. Car celui qui appelle sans science, il va faire plus de dégâts que de bien. Et c'est pour ça, t'entends de ces gens, qu'Allah nous guide et les guide, t'entends des choses d'une gravité extrême. Déjà une ignorance de tawhid. Et aucune importance n'est accordée au tawhid. Ils ne savent même pas ce que c'est tawhid dans leur grande majorité. Et si tu vas dans les rangs de ces jama'at en Inde et au Pakistan, c'est encore plus grave. Dans la mosquée même, dans leur mosquée principale de Nizam al-Din, tu vas trouver qu'il y a shirk. Dans la mosquée principale de jama'at Tablir, il y a shirk dans la mosquée. Yani, trois personnes sont enterrées dans la mosquée, ils cherchent le baraka et la bénédiction dans leur tombe, notamment le fondateur de cette secte qui s'appelle Mohamed Ilyas. Lui avec son épouse sont enterrés dans la mosquée même de Nizam al-Din à Delhi. Donc, si on veut appeler à la religion d'Allah, on doit le faire correctement, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On ne peut pas s'imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'adab. Et les bonnes manières, quand on va faire nos besoins, il nous a enseigné l'adab. Quand on va faire nos besoins, et dans toute chose de notre vie, il ne nous a pas enseigné comment faire da'wah. Et il nous a laissé inventer des manières innovées dans la da'wah. Nabi alayhi salam, sans aucun doute, nous a enseigné comment faire da'wah. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs hadiths. Notamment hadith Mu'ad radiallahu anhu, quand le prophète sallam l'a envoyé au Yémen. Taïb, il ne sera parmi les suiveurs du prophète sallam en toute vérité que celui qui appelle avec science, qui appelle à la religion d'Allah avec science. Regardez, c'est l'imam Ibn al-Qayyim avant l'apparition de Jama'at Tablir. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et ça, l'imam Al-Qayyim, il le prend de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Sourate Yusuf, il dit au prophète alayhi salam, dis-leur, voici ma voix, j'appelle à Allah avec science et clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Ça veut dire le prophète alayhi salam, il appelle avec science. Et ceux qui l'ont suivi, ils appellent également les gens avec science. فَقَوْلُهُ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ تَفْسِيرٌ لِسَبِيلِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا. Donc c'est quoi la voix du prophète alayhi salam, il dit Ibn al-Qayyim rahimallah, c'est qu'il appelle à la religion d'Allah. Donc la voix du prophète alayhi salam et la voix de ses suiveurs, c'est d'appeler les gens à la religion d'Allah. Et donc, regardez cette déduction qui peut faire peur, dans laquelle il dit فَمَنْ لَمْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِهِ. C'est pour ça, celui qui n'appelle pas à la religion d'Allah, il n'est pas sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et appeler à la religion d'Allah, c'est selon notre capacité et selon notre niveau de science. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut distribuer des audios, des cours, des livres, inviter quelqu'un à organiser des rencontres où on étudie ensemble, et ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de le faire. Lakin, le croyant qui a compris la véracité de la religion de l'islam, il a cette motivation d'être la cause de la guider des gens. Il voit quelqu'un qui ignore Tawhid, il essaie de l'éclairer, de l'orienter, de lui apprendre que c'est Tawhid. Il commence par l'ordre que le Nabi nous a enseigné. On commence d'abord, quand on appelle les gens, par Tawhid, jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Après, on passe à la salat. Et après, on passe à la zakat. Et ainsi de suite. Tout est important dans notre religion. Mais il y a un ordre de priorité à respecter. Et il ne faut pas tomber dans le piège de commencer à parler avec quelqu'un qui s'intéresse à la religion de l'islam, de commencer à lui parler des grands péchés et du porc. Et pourquoi on ne mange pas du porc, et de l'alcool, et de la musique, et de zina, et ainsi de suite. Ça, c'est la meilleure manière de le faire fuir de la religion de l'islam. Car ça, c'est le plan de Shaitan, et le piège de Shaitan dans lequel on va tomber. Car Shaitan, il sait que cette personne n'a pas d'attachement à Allah, n'a pas encore l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va le pousser à délaisser ce que son nefs aime pour l'amour d'Allah. Il n'a pas encore ça. Et il sait de lui qu'il est très attaché à ces choses-là, à ses péchés. Et donc, il essaie de lui montrer que si tu veux entrer en islam, tu dois d'abord délaisser tout ça. Et peut-être qu'il n'acceptera pas. Lakin, on commence par Tawhid, par l'aqida, par la foi. Et ensuite, on lui apprend le reste graduellement, petit à petit, selon son avancement dans l'apprentissage et la mise en pratique de la religion. Et celui qui apprend la foi et qui apprend Tawhid, il va aimer Allah. Et s'il aime Allah, il sera capable de faire des sacrifices et de délaisser ce que son nafs aime pour Allah. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, regardez, la da'wah de Nabi alayhi salam a duré 23 ans. Pendant 13 ans, il leur a enseigné seulement la connaissance d'Allah. Il leur a enseigné seulement la foi en Allah. Il leur a enseigné seulement At-Tawhid. Et le reste est venu par la suite à Médine. Salat, elle est venue vers la fin de la période mécoise, mais tout le reste est venu à Médine. Le jeûne, le pèlerinage, c'est vraiment vers la fin, la 9e année. Et Zakat, c'est beaucoup plus tard aussi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. C'est de respecter cet ordre dans la da'wah, qu'Allah nous le facilite à tous. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.